On a reconnu ce succès de la formation de Cranberries, ici, qui est un réenregistrement de cette pièce Zombie, pièce qui est sortie, en fait, album qui est sorti l'an dernier en 2017, version acoustique et orchestrale de certaines pièces de la formation Cranberries.
Alors, donc, avec la voix unique des Cranberries qui s'éteint, Dolores O'Riordan est décédé subitement, entre guillemets, à l'âge de 46 ans. C'est un texte paru dans Le Devoir. Philippe Papineau, en collaboration avec l'agence France Presse, la voix forte aux inflexions uniques de la chanteuse Dolores, qui a fait vibrer toute une génération d'amateurs de rock avec The Cranberries dans les années 1990, s'est éteinte subitement lundi. O'Riordan avait 46 ans. Au fil des succès qui ont marqué les 6 albums originaux du groupe irlandais avec en tête la bombe Zombie, 652 millions de vues sur la chaîne officielle YouTube, la chanteuse à l'attitude souvent mordante est devenue une figure importante de la musique. Sa voix continuera de hanter le public. Elle-même, auteure et compositrice, O'Riordan a rapporté avec force des titres tant énergiques que tendres. Notons « Ode to My Family »,« Animal Instinct », Salvation, Linger, Analyze et When You're Gone, qu'elle a su éclairer avec son timbre parfois tranchant, parfois voilé, et ses fins de phrase où elle laissait sa voix cassée. L'annonce de sa mort, lundi, aura surpris tout le monde. O'Riordan, qui avait 3 enfants, se trouvait à Londres pour une courte séance d'enregistrement, a précisé son agence Lindsay Holmes Publicity dans un communiqué. Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle et ont demandé le respect de leur vie privée dans cette période très difficile, dit aussi la note. La chanteuse originaire de l'ouest de l'Irlande était la plus jeune de 7 enfants. Musicienne dès son jeune âge, elle avait rejoint les Cranberries en 1990 alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Dès son premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? La formation avait attiré l'attention, entre autres, avec le titre « Linger ». Puis, le groupe a obtenu un large succès avec un album suivant, avec l'album suivant, « No Need to Argue », sur lequel on trouve la chanson phare « Zombie », un titre contestataire qui évoquait le conflit en Irlande du Nord. L'album aura atteint le sommet des palmarès dans plusieurs pays. Au total, le groupe a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. Le monde musical a abondamment réagi sur les réseaux sociaux lundi. Le guitariste des Kings, Dave Davis, s'est dit ébranlé par la mort de Dolores. On s'était parlé il y a quelques semaines avant Noël. Elle semblait heureuse et en santé. On avait même évoqué l'idée d'écrire quelques chansons ensemble. Le populaire artiste irlandais Ozier a écrit sur Twitter qu'il n'oublierait jamais la première fois où il a entendu la voix de la chanteuse. « Je n'avais jamais entendu quelqu'un se servir de son instrument comme ça. Je suis bouleversée et attristée d'apprendre son décès. Nous sommes anéantis », a réagi Duran Duran sur Twitter. En 2003, lassé des tournées intensives et en panne d'inspiration, The Cranberries avait décidé de faire une pause. Chacun était parti de son côté, la chanteuse aux cheveux de jet coupés courts, tentant une carrière solo avec un premier album, « Are You Listening » en 2007. Les Cranberries s'étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti 3 ans plus tard l'album Roses. Leur dernier album, Something Else, est sorti l'an dernier. Ils avaient dû annuler plusieurs concerts, dont un à Montréal prévu à la Maison Symphonique, évoquant alors les problèmes de dos de la chanteuse. En 2014, Dolores avait fait parler d'elle pour avoir agressé une hôtesse de l'air lors d'un vol de New York vers l'Irlande. Elle avait reçu un diagnostic de bipolarité peu de temps après. Condamnée à payer une amende, la chanteuse avait déclaré qu'elle utiliserait la musique, la danse et la scène pour améliorer sa santé mentale. Depuis le début de sa carrière, O'Riordan a plusieurs fois suscité la controverse avec des prises de position sur certains enjeux de société. Née dans une famille catholique pratiquante, elle s'est ainsi affichée contre l'avortement ou pour la peine de mort dans certains cas, et s'est également montrée peu tendre envers les féministes. La mort, avait-elle raconté l'an dernier dans le balado américain Soul Sister, la hantait depuis l'adolescence. « J'avais l'habitude d'aller au cimetière et de m'y promener, disait-elle. Je sais que je dois mourir. Il faut mourir. On doit tous mourir. La question est quand? Combien de temps nous reste-t-il? » Le mystère est malheureusement résolu. Une autre disparition, François Morel, le dernier des Mohicans, c'est dans Le Devoir sous la plume de Christophe Huss. Le compositeur québécois François Morel s'est éteint dimanche soir à l'âge de 91 ans. Il fut l'un des pionniers de la diffusion de la musique contemporaine au Québec. Né le 14 mars 1928 à Montréal, François Morel connut sa première consécration le 16 octobre 1953 lorsque Léopold Stokowski créa son œuvre Antiphonie à Carnegie Hall dans le cadre d'un concert de musique canadienne. C'est avec Serge Garand et Gilles Tremblay que François Morel, élève en composition de Claude Champagne, travailla dans les années 50 à la diffusion de la musique contemporaine au Conservatoire de musique de Montréal, puis en créant le groupe Musique de notre temps avec Serge Garand, Otto Joachim et Jeanne Landry. Alors que ses contemporains allaient parfaire leur formation en France auprès de Messiaen ou Dutilleux, Morel était resté au pays. François Morel travailla de 1956 à la fin des années 1970 à Radio-Canada, où il écrivit des indicatifs et des musiques pour la radio et la télévision, et œuvra comme conseiller musical et recherchiste. Pour Gilles Ouellette, orchestrateur, compositeur et chef d'orchestre, proche, confident et ami pendant plusieurs années, François Morel a représenté un idéal, un modèle d'ouverture. C'est le même compositeur qui a écrit l'indicatif musical accrocheur pop jazz de l'émission télévisée « Quelle famille » en 1969 et « L'étoile noire » en 1962, œuvre pour orchestre aux sonorités d'avant-garde. Gilles Ouellette décrit celui qui fut professeur à la faculté de musique de l'Université Laval à partir de 1979 comme un trouveur qui a vu naître la télévision de Radio-Canada, où il a contribué de façon marquante à établir des standards de qualité et d'originalité. François Morel a composé plus de 100 musiques de téléthéâtre et de téléromans de 1954 à 1981, ce qui n'a pas toujours été bien vu dans le milieu de la musique contemporaine. Ses expériences de travail auront grandement contribué à faire de lui ce musicien complet, universel et forcément plus contemporain que plusieurs, estime M. Ouellette. Des extraits de l'heptade d'harmonium seront livrés à la puissance 64 par les musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec aux côtés de Beethoven, Prokofiev, Wagner et Tchaïkovski, entre autres. Non content de la présence sonore déjà imposante d'un orchestre symphonique, le producteur Daniel Gélina a décidé de répéter l'expérience tentée avec succès à Québec l'an dernier, d'amplifier chacun des musiciens de l'orchestre et d'ajouter tous les effets de scène associés au concert rock, afin de donner un effet coup de poing à la musique classique. L'idée d'insérer un extrait de l'album d'harmonium s'est imposée d'elle-même, selon le producteur. Serge Fiori, présent à l'annonce d'hier, s'est dit extrêmement honoré et touché de voir son travail ainsi mis en valeur. Ce concert amplifié, qui mettra aussi en vedette la soprano Nathalie Choquette, sera présenté le 1er mars au Grand Théâtre de Québec et le 2 mars au Centre Bell dans le cadre de Montréal en lumière. Encore plus de stars pour le prochain 10 % France 2 a dévoilé les noms des vedettes qui feront l'objet d'une intrigue au cours de la troisième saison de 10 % dont le tournage a débuté hier à Paris. Jean Dujardin, Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Isabelle Huppert et Béatrice Dalle défileront à l'agence d'Impresario au cours des épisodes qui seront diffusés plus tard cette année. Le chanteur Julien Doré reprendra son propre rôle. Cette nouvelle saison mettra les nerfs et les liens des agents héros à rude épreuve. Les saisons 1 et 2 sont offertes sur Netflix sous le titre d'Appeler mon agent. Et si je peux ajouter mon grain de sel, c'est disponible également sur TouTV Extra. C'est absolument délicieux et incontournable comme télésérie.
Par la faute du nombre, j'ai to me.
Simon Kingsbury et son plus récent extrait « Tuer la bête ».
Alors, dans cette portion libre, tourisme mondial plus 7%, le tourisme mondial s'est offert en 2017 sa plus belle année en 7 ans grâce à la reprise économique avec un bond de 7% du nombre de touristes sur un an, a expliqué hier l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Depuis plusieurs années, le rythme tournait plutôt autour de 4%. Le nombre de visiteurs internationaux, au moins une nuit sur place, a atteint 1,3 milliard de personnes sur la planète. L'Europe est le continent qui a le plus attiré les visiteurs, plus 8 %. En France, la tendance est clairement positive, plus 8 %, après 2 années de faiblesse liées aux actes terroristes, et tout indique que le pays est resté la première destination mondiale en 2017. Les États-Unis, deuxième destination mondiale en 2016, avec 75,6 millions de touristes, ont en revanche enregistré un recul. L'Amérique du Nord affiche le plus mauvais résultat régional avec une hausse estimée de 2 % en dépit des bons résultats du Mexique et du Canada. C'est en une de la presse d'aujourd'hui, projet de série jeunesse de Radio-Canada, des ressemblances étranges avec une BD française. La nouvelle série jeunesse Silex de Radio-Canada a-t-elle été inspirée par la populaire BD Silex and the City? Le diffuseur jure que non, mais la maison d'édition d'Argo, l'auteur et la maison de production derrière la série animée du même nom se disent interpellés par l'utilisation du nom et du concept de leur œuvre et exige des explications. Jean Siag et Véronique Lauzon signent l'article. En décembre dernier, la presse a annoncé la sortie d'une nouvelle quotidienne destinée aux enfants de 9 à 12 ans qui sera diffusée sur Ici Radio-Canada Télé l'automne prochain. Lorsque l'auteur de la BD Silex and the City, Jules, a pris connaissance du titre et de l'argument principal de la série produite par Pixcom, il a eu une réaction d'incrédulité. Le monde contemporain vu par le prisme de la préhistoire est exactement la prémisse de la série qu'il a imaginée il y a une dizaine d'années. C'est un manque de professionnalisme flagrant, a-t-il confié à la presse au cours d'un entretien téléphonique. Il suffit de taper Silex dans Google pour tomber sur la série. Il me semble que c'est un truc élémentaire de se renseigner, d'autant que le dispositif narratif est similaire, quand bien même ce serait une coïncidence. Ça dénote un vrai dysfonctionnement de leur part. La BD, publiée chez Dargo depuis 2009, vendue à plus de 500 000 exemplaires, est une saga familiale, celle de la famille Dotcom, qui se passe à l'ère préhistorique. Le tome 8 de la série, L'homme de Cro-Macron, sortira l'automne prochain. C'était une façon de parler de notre époque en la décalant dans le temps, nous dit Jules, auteur de La planète des sages, La croisade s'amuse ou encore Il faut tuer Rosé Bové. J'avais d'abord pensé camper l'histoire au Moyen-Âge, puis je me suis dit que l'ère préhistorique avait un riche potentiel. Il y a eu bien sûr les pierres à feu, mais c'était mignon et naïf. Je voulais faire quelque chose de plus grinçant, dans l'esprit de South Park ou de Simpsons. La série télé Silex, qui met en vedette Florence Lompré, Geneviève Schmitt et Jonathan Caron, et dont le tournage doit débuter demain, se passe elle aussi à l'ère préhistorique. Elle met en scène deux clans, les pierres et les rocs, qui doivent cohabiter sur une même montagne. En entrevue à la presse en décembre dernier, Radio-Canada décrivait Silex comme une parodie de notre société. L'idée est vraiment de rire et de présenter des situations d'adolescents qui se demandent s'ils sont normaux ou pas, expliquait alors Christiane Asselin, première directrice jeunesse à Radio-Canada. Dans la série, comme dans la BD, les personnages utilisent des tablettes en pierre. On n'en sait pas plus sur le contenu de la série produite par Pixcom et écrite par David Leblanc, Marie-Louise Chouinard et Anne-Hélène Prévost, mais aucune demande d'acquisition de droits n'a été faite à l'éditeur français. Pourtant, le diffuseur public a avoué que l'équipe connaissait l'œuvre de Jules. Le producteur a fait faire un contrôle de titre au moment de la production, après plusieurs mois de développement, et c'est seulement à ce moment qu'on a su que la BD existait, a écrit par courriel en décembre dernier Julie Racine aux communications de Radio-Canada. Nous n'avons pas les droits puisque l'émission n'a vraiment aucun lien avec la BD, a dit Julie Racine, directrice générale communication, marketing et marque. La BD s'adresse aux adultes avec des référents pour les 16 ans et plus, dont des référents sexuels. Ce n'est pas du tout le même projet. La série Silex a été conçue ici, à la base, pour des 6 à 8 ans. Les problèmes sont vraiment ceux des enfants. Les dialogues sont à la québécoise avec des expressions de chez nous, alors que la BD est plutôt franchouillarde dans le ton, a ajouté Julie Racine en décembre dernier au cours d'une communication par courriel. Joint de nouveau hier par la presse, Radio-Canada et Pixcom n'ont pas voulu commenter la situation. Jules, qui vient de lancer la nouvelle série BD 50 nuances de grec, s'explique mal qu'un producteur ou qu'un diffuseur aille de l'avant avec un projet qui porte le même nom qu'une œuvre existante. « J'ai fait un album qui s'appelait Le guide du moutard », rappelle-t-il, « et j'ai su qu'il y avait une association culturelle dans la région de Lyon qui portait le même nom. Eh bien, on a dû lui payer des droits. Et pourtant, le contenu de la BD n'avait rien à voir avec cette association. » Barbara Letellier est la productrice de la maison Haut et Court, qui a acquis les droits d'adaptation audiovisuelle de la BD pour une série d'animation diffusée sur la chaîne Arte depuis 5 ans, 200 épisodes de Silex and the City à ce jour. « Nous sommes très gênés par l'utilisation du nom et du concept de Silex par Radio-Canada », nous a-t-elle dit. La maison d'édition d'Argo, qui veille à la protection de l'œuvre de Jules, va prendre contact avec Radio-Canada cette semaine pour en savoir plus et pour déterminer si oui ou non il y a contrefaçon. Donc oui, toute cette histoire nous interpelle. Il va falloir qu'on examine les scénarios de la série. Si nécessaire, on prendra des actions. Groenland, en 2018, direction le Grand Nord, autour du spécialiste des voyages sur mesure, voyageur du monde, de parier sur les destinations qui auront la cote en 2018. Dans la dynamique des excursions réservées aux contrées froides et reculées comme l'Alaska, le Groenland pourrait voir le Groenland pourrait voir son tour venir l'année prochaine. À l'heure où l'Islande cherche des solutions pour absorber un flux touristique qui pourrait s'élever à plus de 2,2 millions de visiteurs fin 2017, de nouvelles destinations froides pourraient jouer les Challengers. C'est le cas du Groenland, selon le voyagiste Voyageur du Monde. À ce jour, la destination reste encore onéreuse et impose aux baroudeurs un minimum d'organisation. En deuxième position, le voyagiste spécialiste mise sur le retour de l'Égypte. En 2017, la Tunisie a renoué avec son dynamisme touristique, affichant un bond de 117 % du nombre de vacanciers, ayant choisi cette destination en juillet et août dernier, selon les chiffres des entreprises du voyage. Le Maghreb pourrait tirer son épingle du jeu avec un nouvel ambassadeur moins attendu, l'Algérie, classée 10e de ce palmarès. La Serbie boucle le podium, confirmant l'attrait des touristes pour les pays d'Europe de l'Est. Après le Monténégro et la Bulgarie, Belgrade, la capitale serbe, côtoierait le succès en 2018. Enfin, parmi les destinations originales et inattendues, Voyageurs du Monde parie sur le potentiel du Nicaragua et du Mozambique. Des idées pour le week-end, patiner dans le nord, à Saint-Sauveur-des-Monts, près de l'église, 3 sentiers de glace au parc John H. Molson pénètrent dans la forêt, éclairés sur la majorité du parcours, c'est gratuit. www.ville.saint-sauveur.qc.ca, ce sont des suggestions d'Alain Demers dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, section Évasion, séjour au lac Taureau, centre de vacances situé À Saint-Michel-des-Saints, l'auberge du Lac Taureau offre autant d'activités en hiver, raquettes, vélo sur neige, randonnée du trappeur et plus, www.lactaureau.com. Et finalement, des éco-gîtes près d'Eastman. À Saint-Étienne-de-Bolton, les coteaux Missisquoi louent 2 yourtes et 3 cabanes pour un séjour. Ski de randonnée, raquettes ou marche sur les sentiers de l'Estrie. www.coteaux au pluriel missisquoi.com. C'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens d'aujourd'hui. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et si vous nous écoutez en direct, je vous retrouve dans quelques minutes avec l'émission Les Paractualités.